Vous écoutez le syndrome de la page colorée, avec comme invité moi, Jérôme Considérant, créateur du fanzine, de point parenthèse.
Le syndrome de la page colorée, des rendez-vous sonores avec ces artistes de la micro-édition, très loin d'être en gamme d'inspiration.
Saison 1, épisode 3.
Salut, oreilles françaises, oreilles québécoises, oreilles belges et oreilles de toutes les nationalités. Bienvenue dans le syndrome de la page colorée, un podcast sur les fanzines qui regarde ce qui se passe dans toute la francophonie. D'ailleurs, on enregistre depuis deux pays différents. Celle qui vous parle depuis le Québec est montréalaise, dessinatrice, sérigraphe, c'est Aude Fourest. Salut Aude.
Salut. Je suis bien contente de vous présenter cette troisième émission consacrée aux fanzines avec mon ami Émilien, maintenant nantais et aussi graphiste à son compte. L'univers de l'invité du jour va nous décrocher un sourire, bien caché sous notre masque. C'est un voyage au pays des smileys. Smiley. Mais attends, c'est un anglicisme ça. J'habite quand même sur une terre francophone. Alors pour info, selon l'Office québécois de la langue française, on remplacera ce sacré mot de smiley par binette, ou encore mieux, frimousse en québécois. Mais bon, même l'Académie française ne semble pas fâchée contre l'anglicisme smiley, car comme écrit sur leur site, on ne se fâche pas contre un sourire.
Après un premier épisode avec des micro-éditeurs québécois, après un deuxième épisode avec un micro-éditeur français, dans quel coin de la francophonie partons-nous aujourd'hui ? Une odeur de frites. Ah, des belles bandes dessinées. Merci les clichés. Et ouais, c'est direction la Belgique, précisément du côté de Charleroi. Autant pour Aude que pour moi, c'est un bel endroit où on n'est jamais trop allé, mais qui nous intéresse beaucoup. Parce que du côté de la scène fanzinéenne, ça bouge énormément. Il y a beaucoup de productions, et le choix a été compliqué quand il a fallu en choisir une seule, pour commencer à parler dans notre émission de ce qui se passe du côté belge. Finalement, on a réussi à choisir un fanzine parmi tout ça, et c'est Aude qui va vous en parler. À défaut de ne pas pouvoir vous le mettre sous les yeux, elle va vous le mettre dans les oreilles.
Fermez les yeux et visualisez. On rentre dans le monde de la méditation en pleine conscience, version fanzine. Pour commencer, installez-vous confortablement. Prenez une grande inspiration et commencez à visualiser un fanzine au format carré. Environ 5 pouces ou 13 cm. Inspirez par le nez et expirez par la bouche. La couverture est un jaune poussin. Sentez votre poitrine qui se gonfle et qui se relâche. Sur ce fond jaune, un trait noir qui vient faire contraste. Bien pensé. Car si l'on n'a aucune idée de quoi traite le fanzine, au premier abord, cela n'invoque pas grand-chose. Une forme géométrique, un T. Prenez conscience de votre corps. Prenez conscience de ce petit livre. En haut, à droite, le titre. Deux points, parenthèse.
Waouh, merci pour cette petite méditation, Aude. Après un journal autour du confinement, un conte pour enfants créole, boum, téléportation dans un tout autre univers. Cette fois, on va parler d'un trip de graphiste autour du smiley. Ce graphiste, c'est précisément Jérôme Considérant. Son fanzine, on l'a découvert car les éditions Acte Nord ont fait le geste terriblement sympathique de nous envoyer un colis rempli de zines, après qu'on ait participé à leur émission de Web TV. Il faut dès que possible binge-watcher leur ancien épisode ou réserver vos soirs pour les prochains lives, car c'est du superbe boulot autour de la micro-édition. Bref, Parmi ce fameux courrier des éditions Actes Nord, un fanzine nous a autant intrigués que fait rigoler. Alors, il n'en fallait pas moins pour qu'on cherche à en savoir plus sur le créateur qui se cachait derrière. Aussi, ça nous permet d'aborder une autre façon de faire des zines. Pas de texte, peu de couleurs. Un concept simple, décliné sur plusieurs pages. Parce que c'est très graphique, on surnomme ça un graph-zine. Allez, on est parti pour cet épisode 3. Partons à la découverte de ces choses que l'objet livre ne permet pas de raconter. La petite ou la grande histoire, et autres anecdotes croustillantes, qui se cachent derrière un fanzine. Aujourd'hui, son titre, 2.
Salut Jérôme, peux-tu présenter le fanzine pour celles et ceux qui écoutent le podcast et ne peuvent pas le voir ?
Ce fanzine intitulé très judicieusement 2. compile toute une série de recherches, attention les grands mots ici, de recherches graphiques et de questionnements, j'ai envie de dire, autour des trois formes qui constituent le smiley de base. Donc vraiment, on, même pas dans l'émoticône, on est vraiment dans le smiley, le badge acide des années fin des années 80 pour ceux qui ont connu la New Beat. Moi, j'ai pas connu, j'étais encore à l'école primaire, mais j'en avais un quand même, parce que voilà. Ici, dans ce bouquin, donc, c'est, je propose des recherches graphiques qui tournent autour du cercle jaune, des 2 qui constituent les yeux et du sourire caractéristique du smiley, de jouer au maximum pour complètement faire, par moment, arriver à ce que la forme qui symbolise ce smiley n'ait plus rien à voir avec le smiley. J'avais noté une citation, en fait, dont je me servais beaucoup à l'époque, comme si c'était il y a 50 ans, quand c'était Internet en noir et blanc. Cette citation de Charles Baudelaire, qui accompagnait chacune de mes publications à l'époque, qui résume bien, justement, tout ce travail, c'est « Parce que la forme est contraignante, l'idée jaillit plus intense ». Et j'ai pris beaucoup de plaisir justement à jouer avec ces trois formes. Ce travail qui en fait est un travail fini quelque part. Le smiley, voilà, il est là, il a les deux yeux, la bouche, le jaune. Qu'est-ce qu'on peut apporter de plus ? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Et puis hop, j'ai pris tout ça avec mes moyens et ma façon de faire. Et puis voilà, se faire exploser le truc et m'amuser en fait, reconstituer d'autres choses. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est très clair pour celles et ceux qui nous écoutent, mais il est question d'amusement et de détournement. Voilà.
Oui, il est question aussi d'épuisement d'une forme. C'est impressionnant de voir comment une forme peut être détournée de mille et une façons. Il y a des pages où il arrive à recréer des tableaux, comme l'autoportrait de Gustave Courbet. Il y a aussi des personnages, comme un sumo, un squelette. Mais il y a aussi des motifs répétitifs et géométriques. Presque comme un travail de dentelle. On va maintenant s'intéresser à toute l'histoire invisible du zine. Tout d'abord, sa création. Ici, dans le cas de 2, il s'agit du premier zine de Jérôme. Il ne s'agit pas d'une auto-édition, mais bien d'une édition de zine par Actes Nord. C'est donc les passionnés de cette maison d'édition qui sont occupés de la pré-presse, de l'impression, de la reliure. Il y a des artistes qui en sont à leur 200e zine, et il y a des premières fois à tout. Tout ça pour vous dire que n'importe qui peut faire un zine, alors foncez. Et Jérôme, c'est quoi l'histoire derrière ton zine ?
Il est édité chez Actes Nord Édition, qui est basé ici à 8 minutes en voiture de chez moi. Et donc c'est Nicolas Belayev qui me dit simplement, il me dit écoute, ta série sur les smileys, c'est quand même, je veux dire, j'aime bien, c'est intéressant. Et puis moi je continuais à produire des nouveaux visuels, ça veut dire ça n'arrêtait pas. Et puis il m'a simplement dit écoute, si ça t'intéresse, on pourrait bosser ensemble et sortir ce fanzine. Voilà, ça s'est fait vraiment, on ne peut plus naturel. On s'est retrouvé fin juin, je dirais, 2018, en pleine canicule. Il faisait vraiment, mais vraiment extrêmement chaud. Et on était dans son atelier et on a fait la mise en page. Je veux dire, ça a été très vite, quoi. Je t'avoue que j'en touche pas une au niveau de la... Je veux dire, le bêtement d'imprimer sur place via en risographie, ce genre de trucs. C'était des trucs que je maîtrise absolument pas. Et Nicolas et Corinne, donc mon voilà, ils ont tout fait quoi. J'ai juste choisi le papier. J'ai été donné un petit coup de main. Je me souviens un soir pour aller plier des pages et ce genre de trucs. Et puis voilà. Puis un jour, Nicolas est venu à la maison. Il m'a donné une caisse et il y avait voilà, il y avait des exemplaires et ils étaient tous bien emballés. Vraiment un travail hyper soigné, soigneux, hein, je veux dire, comme toujours avec Nicolas et Corinne. Et donc, voilà.
C'est aussi ça, le monde du fanzine. Des gens arrivés là un peu par hasard, qui ne sont pas forcément dans ce microcosme à la base. Puis ce qui est bien là-dedans, c'est que tout le monde est accepté. Chaque fanzine a sa lectrice ou son lecteur. Certains artistes décident de pousser l'expérimentation plus loin, et le zine est un super terrain de jeu pour ça. Pour revenir à cette idée d'épuisement, il nous semble que Jérôme est le type de personne qui va au bout d'une idée. Sur son Instagram, par exemple, on peut voir qu'il reprend souvent toujours le même dessin pour n'en déformer qu'une partie ou un dialogue. La répétition est vraiment présente dans sa pratique quotidienne. C'est ce qu'il nous explique, en particulier pour le zine.
Je me suis imposé sans m'en rendre compte déjà depuis presque un an maintenant, de systématiquement pondre quelque chose au moins une fois par jour. C'est pas régulier, là, qualitativement, voilà, il y a des choses qui sont plus faibles que d'autres, mais j'aime à me dire que mon compte Instagram, par exemple, c'est comme si j'avais vraiment mon carnet de croquis. Voilà, il est là, il y a les plus, il y a les moins, il y a mes faiblesses, je vois ça vraiment comme un carnet de croquis dans lequel tout le monde peut venir jeter un coup d'œil, quoi. Je sais que je vais bâcler certains travaux parce que c'est mon travail du jour et que je me dis que, mais ça me remotive pour en faire peut-être que les 12 suivants soient meilleurs et voilà, puis une remise en question, mais il y a ce côté assez transparent sur mon travail que je produis, parfois à m'en rendre malade, mais c'est une formule qui me plaît bien. J'ai toujours tendance à presser sur le citron, quelle que soit ma marotte ou ma passion du moment, si je puis dire. Donc je vais travailler à fond sur une thématique, le bon exemple, parce que par exemple dans le fanzine, il y a peut-être un tiers de ce qui a été produit autour de cette thématique du smiley. Enfin, on a effectué une sélection avec Nicolas, évidemment, au moment de la mise en page. Mais donc il y a ces périodes comme ça où je donne tout sur mon ordinateur et après je craque et je ressors mes blocs de feuilles, mes tampons, mes gros marqueurs. Et il y a toute une période comme ça où je ne fais que dessiner aussi de manière assez frénétique. Voilà. Je ne pense pas que les deux univers se valent, mais ils ont le mérite d'exister, et au moins de coexister, parce qu'ils se nourrissent l'un l'autre quelque part.
Pour trouver d'où vient l'idée de ce fanzine, il faut regarder dans le passé de Jérôme. Surtout qu'ici, le fanzine est au final un simple exercice de style dans le prolongement d'une démarche que Jérôme endosse en fait depuis beaucoup plus longtemps, la parodie. En préparant l'entrevue, j'avais repéré sur l'Instagram de Jérôme une publication où il est assez critique, questionnant par rapport aux images qu'on place au rang d'œuvres d'art, en opposition aux images plus populaires, plus courantes. Et même au moment de l'entrevue, Jérôme était assez étonné qu'on l'invite à parler de son zine. Tout ça me semble assez représentatif de la légèreté du personnage et de son fanzine. Par légèreté, j'entends humour, décontraction et liberté finalement. On dit que les chiens ressemblent à leur maître ou à leur maîtresse. Eh bien, la règle ne semble pas échapper aux fanzines et à leurs créatrices.
Ce qui est particulier dans mon parcours, c'est que j'ai commencé à exposer, j'ai le sentiment que c'est sur un malentendu. Enfin, vraiment, j'avais commencé déjà à faire bêtement, vraiment du détournement pendant mes pauses de midi quand je travaillais dans les autocollants, simplement commencer à mélanger des pictos, puis il y a deux, trois chutes de vinyle qui traînent, donc je fais les découpes, j'échenille, puis j'en donne deux, trois des potes, on rigole, on les colle en rue, et puis tout d'un coup, je commence à chipoter un peu avec l'histoire de l'art. Il y a le radeau de la Méduse qui sort comme ça aussi. Mon ami Pierre qui me souffle l'idée, qui me dit « Oui, tu devrais un peu peut-être partir avec ton truc sur des œuvres emblématiques. Et puis avec un autre pote, Fabrice, tout d'un coup, on se retrouve à monter une expo avec les panneaux. Tout d'un coup, il y a une série qui naît comme ça, où je réalise des panneaux qui brossent l'histoire de la Renaissance jusqu'au symbolisme. Et j'expose ça ici à Charleroi. Et derrière ça, moi, je prends conscience qu'il y a un côté didactique et assez amusant, que ça parle fort aux enfants, parce que tout le monde se retrouve quelque part à jouer à ce jeu de savoir, tiens, ça c'est telle toile, ça c'est un Rubens, ça c'est un machin. Et donc je me retrouve un peu embarqué dans ce truc comme ça. Les expos s'enchaînent un peu, ça part un peu sur des foires à l'étranger, tout le bazar. Et moi je comprends pas trop le truc, quoi, tu vois. Enfin, je me suis carrément retrouvé à honorer des contrats d'exposition d'art contemporain, carrément, quoi, le truc, tu vois, sans véritablement avoir un discours d'artistes contemporains derrière. J'avais pas beaucoup de recul derrière tout ça, mais ça restait encore un jeu.
Bon, rendu ici, vous ne mourrez pas d'envie de savoir si, comme tout le monde, Jérôme utilise beaucoup d'emojis dans la vie de tous les jours ?
Oui, j'ai les emojis, je suis un grand consommateur de l'emoji qui bave. Cette espèce d'emoji qui est c'est trop bien en train de baver. Je trouve je le trouve formidable. Il devrait être reproduit sur la face visible de la Lune depuis la Terre pour que tout le monde puisse le voir baver. Je pense que c'est une des plus grandes réussites de son créateur, clairement.
Moi, je me demandais aussi si Jérôme pouvait offrir son zine à une personne sur Terre, dans n'importe quelle époque et n'importe quel pays, qui choisirait-il ?
Waouh ! C'est chaud, ça ! Eh ben, tu me poses une colle. Je te dirais aller l'offrir à Harvey Ball, le mec qui a créé justement ce rond jaune. Si ça se trouve, le type a peut-être... C'est peut-être justement inspiré d'une autre idée derrière, et voilà, on va savoir un jour ou l'autre qu'en fait, il a tout volé à un autre type. Mais ouais, peut-être... me lancer justement dans une espèce de partir à pied justement, voilà, avec ce petit fanzine en main, et aller jusque sa maison, qui j'imagine doit être aux États-Unis, dans je sais pas trop où. Il est mort maintenant, je pense. C'est justement ce qui rendrait le voyage encore plus symbolique, comme ça, avec tu vois, filmé cadré 16/9 avec une musique très très larmoyante comme ça.
C'est l'heure de notre question au public. À chaque émission, nous vous posons une question et vous pouvez y répondre par message vocal via notre adresse courriel lesyndromedelapagecolorée@gmail.com.
Les réponses que nous allons passer aujourd'hui répondent à la question de l'épisode précédent, qui était « De quoi parlerait le fanzine de vos rêves ?»
Un grand merci à Félix, Henri, Julie, Audrey, Isabeau, Jean-Marie et Méline. Pour la 4e émission, on vous propose de répondre à cette question. Si vous deviez sortir un fanzine autobiographique, quel titre lui donneriez-vous ?
Des beaux papiers, des belles impressions, des impressions spéciales avec, je sais pas, des vernis, des embossages, du doré, plein de choses un peu spéciales. Ce serait un fanzine de BD avec une grande aventure et des dessins très graphiques, très beaux. Et ouais, je pense que ce serait ça mon fanzine préféré.
Pour moi, mon fanzine idéal serait un fanzine qui parle des phares, des licornes et des dirigeables, mes passions.
Ben, ça pourrait être un fanzine sur le Scrabble. Puis là, les gens parleraient de leur meilleur coup au Scrabble avec le plus de points, de leur meilleure partie, puis prendraient des photos d'eux en train de jouer au Scrabble, genre devant des lacs vraiment magnifiques. Puis ça pourrait s'appeler Scrabble Porn ou quelque chose comme ça.
« Le fanzine de mes rêves nous parlerait de magie et d'émerveillement. Il nous donnerait envie de nous rouler dans l'herbe et de chuchoter des messages aux insectes minuscules et invisibles. Le fanzine de mes rêves est illustré ou en bande dessinée. Il nous raconte l'histoire d'un personnage féminin un peu en marge qui a choisi de prendre le temps de regarder ce qui l'entoure. De vivre, tout simplement. Le fanzine de mes rêves nous montre des choses inessentielles au récit. Il contemple la beauté de la nature. Il nous permet de rêver à une autre vie.
Le fanzine de mes rêves, c'est un fanzine qui parlerait en fait de la culture du zine. Dans les années 80-90, il y avait des zines comme Fact Sheet 5 aux États-Unis qui étaient des zines entièrement dédiées à la culture du zine et qui compilaient des critiques de zine, puis qui servaient un peu de point de ralliement pour toute la culture du zine. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque. Je trouve que non seulement c'est difficile d'avoir accès à des zines ou avoir une vue d'ensemble de ce qui se fait en termes de zine, mais c'est difficile d'avoir accès à des commentaires puis à des pistes de lecture par rapport à ce qui se fait, puis surtout d'avoir accès à un regard porté sur la culture du zine qui vient de l'intérieur.
J'aimerais entendre différentes réflexions sur nos buts dans la vie. Le travail, les loisirs, la famille, la réussite professionnelle, éventuellement financière. Voilà, une réflexion plutôt philosophique.
Alors moi, le fanzine de mes rêves, ça serait l'histoire de France, comme Charlemagne, Louis XIV, les chevaliers de la table ronde, etc., etc. Moi, le fanzine de mes rêves, ça serait les planètes. Jupiter, Mars, comment ça marche ?
On retourne à l'interview. On a demandé à Jérôme comment il diffusait son fanzine et son rapport au monde du fanzine.
Eh bien, figure-toi que je ne me suis jamais posé la question de savoir comment j'allais le distribuer, parce que Acte Nord s'occupe de diffuser ça via son réseau qui est, je pense, déjà bien fourni et bien achalandé, si je puis dire. Moi, j'ai reçu une partie des fanzines que j'ai là, qui sont délicatement emballé dans une boîte, et je t'avoue que j'ai jamais cherché à les vendre parce que ça m'a pas vraiment traversé l'esprit. Je pense que je m'en sers peut-être plus pour réaliser des échanges avec d'autres créateurs, et de temps en temps en offrir un, comme ça, tu vois, quelqu'un dit simplement j'aime bien ce boulot, ou j'aimerais bien avoir un peu plus de ton travail, enfin voir d'autres trucs, ben voilà, c'est un côté carte de visite qui me plaît bien comme ça. Et au-delà de la carte de visite, c'est aussi un outil de troc visuel qui me plaît assez, parce que comme je l'ai expliqué précédemment, j'ai jamais le monde du fanzine, c'est quelque chose que je connais vraiment très très peu, quoi. Je suis toujours assez étonné de voir beaucoup de mes potes qui sont à fond là-dedans, qui font des stories avec des trucs qui bougent dans tous les sens, parce qu'ils ont reçu 4 pages pliées qui viennent de Nouvelle-Zélande, et c'est l'émeute dans leur salon et tout, et c'est quelque chose que je comprenais pas vraiment. Autant j'aime le papier, autant je commence seulement à découvrir cette vraie culture du fanzine, cette espèce de dark web de la création, quelque part, parce que il y a ce côté qui est ce côté on envoie des courriers avec des timbres et ça passe par la poste, et c'est physique, enfin c'est pas commander un bouquin ou un vinyle en ligne, quoi. C'est il y a ce côté on reçoit la part une part de temps de quelqu'un qui a pris le temps de mettre ce fanzine qu'elle a conçu, imaginé, réalisé, plié, allée à la poste pour acheter des timbres, elle a écrit avec un vrai stylo, un vrai feutre, l'adresse. Donc voilà, ça je trouve ça, c'est beau en fait. Je veux dire, ça me renvoie justement à ces lettres qu'on pouvait s'envoyer entre potes quand on était ado, parce qu'il n'y avait pas encore, tout ça. Il y avait pas, enfin tout ça, j'adore tout ça quoi. Bonjour, j'ai 200 ans. Il y avait le téléphone, mais il y avait juste la ligne fixe des parents quoi. Le reste c'était la jungle. Et peut-être que c'est ça qui me botte peut-être. Et qui m'amènera peut-être à en faire plus ou à peut-être plus dialoguer avec des créatrices, des créateurs, enfin voilà, et qui sont à fond là-dedans. C'est ce sentiment en fait peut-être de recevoir une tranche de vie à un moment où le temps n'a jamais été aussi cher. Des gens qui prennent le temps justement de donner de leur temps et de leur imagination, de leur création, de leur sensibilité et de l'envoyer sur un support physique, quelque chose qui vit quoi.
Au fait, depuis le début, on parle de Jérôme Considérant. Mais ça, c'est pour l'appeler si vous le croisez dans la rue, genre. Si vous le cherchez sur Instagram ou dans le vaste monde de l'art, il faudra plutôt regarder du côté de Lord of Terry.
C'est de la grande époque où il fallait absolument avoir une adresse mail j'imagine qu'il doit y encore avoir des Yo-Yo 87 et des Fifi 2000, beaucoup de 2000 je pense dans les gens de ma génération. Mais Lord of Terril, en fait, c'est au moment où en fait j'ai terminé mes études à Bruxelles et je suis revenu à Charleroi. Bah, il faut savoir, pour la petite histoire, la petite anecdote, j'ai grandi au pied d'un terri. Bon, ici dans la région, on doit être beaucoup à pouvoir le dire, mais le bout du jardin de la maison familiale donnait sur un terri. Donc j'ai grandi sur un terri et je trouvais ça amusant justement de me donner ce côté très prétentieux avec ce côté lord, tu vois, que je trouvais très chic, et mettre Terry derrière parce que c'était la crainte absolue, quoi. Je veux dire, pour beaucoup de gens avec qui j'ai fait mes études à Bruxelles, et voilà, il y a absolument rien de chic derrière un Terry. Et puis mon grand-père paternel était mineur, donc voilà, il y a plein de choses qui se mélangent comme ça.
Et voilà, c'est la fin de cette émission. J'ai une dernière suggestion pour les oreilles montréalaises. Avez-vous remarqué dans la rue des petits sourires placardés partout dans l'espace public ? Une frimousse souvent jaune avec en guise de sourire soit le nom de l'artiste, soit le mot amour, dans la plupart des cas il me semble, mais aussi le mot espoir ou bien danse. De quoi nous redonner le sourire en cette période morose ? Il s'agit de l'artiste Make Noise. Depuis la préparation de cet épisode, c'est bien simple, j'en vois partout. En petit rappel, il vous suffit de vous inscrire à notre newsletter pour pouvoir avoir la chance d'être tiré au sort et de gagner un exemplaire dédicacé de notre fanzine du jour. Deux points parenthèses. Vous pouvez vous abonner également sur les plateformes de podcast, sur notre Instagram ou sur notre Facebook. Pour retrouver tout ça, regardez notre Linktree.
Gablé, c'est le groupe à l'origine de toutes les musiques dans cette émission. Sauf l'hymne belge, à moins qu'il nous ait caché quelque chose. Merci à eux pour nous permettre de les utiliser, et n'hésitez pas à aller écouter toutes leurs autres tunes. Et ouais, les dernières secondes d'un podcast, c'est toujours le grand appel au partage infini, et on n'y dérogera pas, en vous disant, faites marcher le bouche à oreille et aidez-nous à faire connaître notre podcast. Et si on répandait un peu de bonheur dans ce monde ? Pour ça, j'ai un bon conseil. Commandez auprès d'Actenor ou de Jérôme directement un fanzine de points parenthèses, puis offrez-le à quelqu'un. Car finalement, offrir en cadeau un fanzine sur le thème du smiley, ça revient à donner le sourire.
Bye bye!